Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC, à la radio RMC Story, canal 23 de la TNT. On va passer 3 heures ensemble et j'en suis ravie. 3 heures jusqu'à 15h avec aujourd'hui autour de la table Paul Lassène. Bonjour Paul.
Salut Estelle, bonjour à tous.
Et nous sommes également avec notre professeur d'histoire géo et militant CGT, Benjamin Amar. Bonjour Benjamin.
Salut Estelle, bonjour à tous.
Thierry Moreau, notre journaliste média, mais pas que. Salut Thierry.
Bonjour Estelle, bonjour à toutes et à tous.
Et puis Juliette Briens, journaliste à l'Incorrect. Bonjour Juliette.
Salut Estelle.
Au sommaire aujourd'hui dans Estelle Midi, on va parler carburant avec le sans-plomb qui passe la barre des 2 euros le litre. Faut-il relancer le chèque carburant ? Dites-nous ce que vous en pensez au 32-16. Et sur l'appli RMC, à midi et demi, on parlera de Gabriel Attal, le Premier ministre. A-t-il raison de vouloir débattre avec Jordan Bardella avant les européennes ? À 13h, selon Oxfam, les PDG du CAC 40 gagnent en moyenne 130 fois plus que leurs salariés. Faut-il plafonner le salaire des patrons ? À 13h30, ce sera le zapping, le meilleur du jour sur RMC. Et puis à 14h, plus de 3 millions de Français possèdent une résidence secondaire. Mais avoir une résidence secondaire, est-ce l'enfer ou le paradis ? Est-ce que ça vous fait toujours rêver ? On vous attend bien sûr au 32-16. Et puis on joue aujourd'hui, Paul.
Oui, très beau cadeau. Le mardi 7 mai, le PSG accueille le Borussia Dortmund en demi-finale. Retour de la Ligue des Champions au Parc des Princes. Mmh. Et on vous propose de vivre l'expérience RMC avant le match. Vous venez ici dans les studios pour rencontrer les équipes d'RMC Sport. Direction ensuite le Parc des Princes avec un ami, une amie, qui vous voulez. Enfin, vous revenez ici pour assister à l'after foot et voir le débrief du match en direct. Alors dès que vous entendez ce signal, eh bien vous avez 5 minutes pour envoyer PSG au 7-32-16 pour vous inscrire. L'alerte peut tomber à tout moment dans l'émission, donc soyez bien attentifs. Vos places pour PSG Dortmund, c'est à gagner uniquement sur RMC.
RMC Estelle Midi.
Midi 6 sur RMC, on va démarrer Estelle Midi avec l'actualité du jour et c'est le prix des carburants qui flambe. Hier, le SP98 a franchi la barre des 2 euros en moyenne le litre. Ça monte également pour le sans-plomb 95 et pour le diesel. Une mauvaise nouvelle pour les automobilistes qui souhaitaient bouger pour les ponts du mois de mai, Paul.
Oui, si vous avez prévu de prendre la voiture ce soir ou demain pour un week-end prolongé, votre carte bleue va chauffer. Depuis le début de l'année, le prix de l'essence est en hausse constante. Le sans-plomb 95 a pris en moyenne 13 centimes par litre. C'est 12 centimes pour le sans-plomb 98 qui atteint la barre symbolique des 2 euros d'après le site carbu.com. Ça, c'était hier. Quant au gazole, il a pris environ 4 centimes par litre depuis le mois de janvier. Mais contrairement à l'an dernier, Estelle, pas d'aide prévue par le gouvernement. On se souvient du chèque carburant de 100 euros distribué à des millions de foyers. Cette fois-ci, c'est ceinture du côté du gouvernement. Oui, le déficit abyssal de la France a convaincu Bruno Le Maire de ne pas redistribuer ses chèques malgré les hausses de prix. Hein, l'exécutif qui veut économiser les 600 millions d'euros qu'a coûté le dispositif l'an dernier. Pas de coup de pouce pour les automobilistes donc. Alors, quelle solution pourrait être imaginée pour soutenir les Français ? Invité d'Apolline de Malherbe hier, le président des supermarchés Leclerc, Michel-Édouard Leclerc, c'est lui dit favorable au retour d'opérations à prix coûtant à la pompe.
Alors, faut-il relancer les chèques carburant ? Benjamin Amar.
Non mais alors, moi j'ai toujours été très gêné par cette histoire des chèques carburant, parce qu'en réalité, vous savez, le gouvernement, c'est pas Dumbledore, hein, il arrive pas avec un coup de baguette magique, tiens, il y a des chèques carburant. Les chèques carburant, c'est de l'argent public, donc, et ça vient des impôts. Donc si on réfléchit, en quelque sorte, les automobilistes se payent en tant que contribuables le chèque carburant. Moi je rappelle que il y a eu, même au niveau européen, une mesure dès 2022, septembre 2022, pour taxer effectivement les super profits, que la France a été partisane là-dessus de mesures minimalistes. Et aujourd'hui, alors qu'on voit se profiler une nouvelle explosion des prix du carburant, eh bien, quand on interroge les Français, il y a eu un sondage là, il y a pas très longtemps, hein, fin mars, un sondage via Voice, qui dit que 65% des Français, ils estiment que la mesure la plus appropriée, c'est bien évidemment de taxer les super profits.
Avec le prix de l'essence, excusez-moi. Ah
ben, mais si, bien évidemment, parce que ça pourrait financer, là, pour le coup, un chèque carburant, non pas payé avec l'argent public.
On va en financer
public,
des trucs.
Mais, alors, mais je croyais que ça pouvait l'essence.
Excusez-moi, juste, je subodorais que ça ne te plairait pas. Mais je vais quand même aller au bout. Effectivement, moi, il me semble normal qu'alors que tout à l'heure, Jamila expliquait que l'inflation est en train de baisser. L'inflation de l'alimentaire. Parce que donc, les prix du carburant, eux, continuent à augmenter largement.
Mais elle ne baisse pas. Elle monte moins qu'avant.
Oui, exactement.
Elle est toujours là.
Et donc, et notamment, les prix du carburant pèsent lourd. Et je pense qu'il est enfin temps de taxer les super profits, les acteurs économiques qui se sont gavés dans une conjoncture très particulière.
Oui, oui,
et les opérations de Michel-Édouard Leclerc à prix
comptant,
etc.
Là, tu vas pas le dénigrer quand même.
Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait une puissance publique qui prenne des décisions. Elle est capable de prendre des décisions pour saigner les chômeurs et les tondre tous les six mois. Eh bien, qu'elle prenne des mesures contre les acteurs économiques qui se sont baffrés et qui continuent de le faire.
Oui, mais dans ces cas-là, elle pourrait prendre les super profits si tu veux, mais baisser ses taxes parce que l'État, dans les 100 euros du chèque carburant, il y a quand même 60% qui revient à l'État. Donc en fait, l'État ne donne pas 100 euros,
mais
il donne 40.
J'ai cru comprendre qu'on a un lourd problème de déficit et que donc les recettes fiscales, c'est important.
Eh ben oui.
Donc moi, je dis, pour le moment, on a très peu demandé aux entreprises, aux acteurs économiques de financer. Ils passent à l'obol, il passe à la caisse et on laisse tranquille les recettes fiscales dont on a besoin pour le déficit public.
Alors, il ne t'aura pas échappé qu'en ce moment, la conjoncture était aussi difficile pour les entreprises. Il n'y a jamais eu autant de défaillances d'entreprises aujourd'hui
en France. Du CAC.
Il y a des entreprises Duralex qui va mettre la clé sous la porte.
Oui, mais c'est pas de celle-là dont je te parle.
Mais
je ne te parle pas de celle-là, soyons clairs. On parle des super profits, Estelle. Duralex ne fait pas de super profits. Les entreprises du CAC, elles font des super profits, plus 65 milliards en un an.
Est-ce que, Thierry Moreau, finalement, c'est pas. C'est terrible ce que je veux dire, mais un mal pour un bien, cette hausse du prix de l'essence, puisque le gouvernement voulait tous nous faire passer à l'électrique. Donc là, pour le coup, je pense qu'il va y avoir des automobilistes qui vont peut-être se poser la question de passer à l'électrique en se disant l'essence, finalement, ça coûte vraiment trop cher.
Le problème, c'est que votre mal pour un bien va coûter extrêmement cher, parce que pour passer à l'électrique, il faut de l'argent.
Bah oui.
Moi, ce qui m'amuse et à la fois me déçoit de la part de Benjamin, c'est que avec sa taxe sur les super profits, il va tout régler. Tout réglé, les bas salaires, la hausse de l'essence, l'inflation, tout. Formidable. C'est vraiment une recette magique pour une ponction sur quelques entreprises. Parce que, comme vous l'avez rappelé, il y a beaucoup d'entreprises qui souffrent. Et alors, je vous dis même pas, les TPE, PME, qui sont quand même 95% de notre
économie.
Mais qui ne font pas de super profits.
Je n'ai jamais parlé d'elles, mais c'est pas grave, tu peux en parler.
Donc, c'est pas avec juste une taxe sur les super profits qu'on va absolument tout régler. Le problème, c'est qu'on est devant une situation compliquée. Les plus précaires aujourd'hui, ils n'ont pas de quoi mettre de l'argent pour aller travailler et gagner de l'argent pour mettre de l'essence dans leur voiture pour aller travailler. C'est quand même un cercle vicieux très compliqué. Donc je pense qu'à un moment ou à un autre, il faudra songer à une aide pour les plus précaires. Le chèque, alors je sais que ça a été beaucoup dénigré, mais au moins c'était quelque chose de ciblé. Je peux vous donner un scoop ? Il n'y aura pas de réduction des taxes pour deux raisons. D'abord parce que les taxes, elles remplissent les caisses de l'État et en ce moment, il en a bien besoin. Et la deuxième chose, la baisse de la TVA sur le carburant, c'est le truc le plus injuste de la Terre parce que ceux qui ont les plus grosses voitures ou ceux qui consomment le plus, eh bien évidemment, en bénéficieront le plus. Donc de toute façon, on est devant un cercle vicieux. Je rappelle, et je le dis à chaque fois, on ne paye pas l'énergie à son vrai prix.
Oui, c'est vrai.
L'énergie est chère et elle va continuer d'être chère. Donc, il faut se préparer à une société. Alors, vous l'avez dit, est-ce que c'est un transfert vers l'électrique? Mais à ce moment-là, ça va coûter des milliards et des milliards à l'État pour transférer. Et encore, je pense que Juliette me rejoindra, mais l'électrique n'est pas la solution la plus écologique de la Terre. On le sait dans la fabrication de ça. Donc, on est vraiment devant un problème. La seule solution, c'est développer les transports en commun pour que tout le monde puisse utiliser tout le temps pas cher.
Et si t'écoutes cher.
Électricité
également. Exactement. Juliette Brillens, est-ce que c'est à l'État de faire l'effort pour aider les automobilistes ou est-ce que c'est aux stations-service, aux supermarchés, aux grands patrons comme Michel-Édouard Leclerc?
Mais en fait, je pense que les entreprises, elles ont des moyens limités parce que le prix de l'essence, 60% revient à l'État. Donc c'est 60% de taxes. Là-dessus, on paye aussi la TVA sur le produit et sur la TICPE. On paye des taxes sur la taxe dans l'essence. Ça, faut le savoir. Et en plus, le problème, c'est que ces taxes, la TICPE, elle n'est pas flottante, justement, elle n'est pas fluctuante. Donc que le prix du pétrole augmente ou s'effondre, on paye la même chose. Donc évidemment, comme d'habitude, quand l'État taxe à outrance, sa seule solution derrière, c'est de donner une prime. Mais une prime pour qui ? Une prime, évidemment, pour les plus pauvres, les plus précaires. Oui. Bon, ça va être quoi ? Une prime de 100 euros quand on a quatre enfants en espace, c'est un plein. Donc déjà, ça ne sert à rien. Et en plus, évidemment, ça va totalement léser les classes moyennes qui se retrouvent, eux, avec le même prix d'essence et ils se retrouvent en plus à payer la prime pour les... Donc en fait, ça n'a aucun sens. Tout ça est ridicule. Et évidemment que moi, je prône à l'inverse de Benjamin Hamard qui prône plus de taxes bon, sur les super profits, d'accord, mais moi je prône moins de taxes. Évidemment, pour moi, c'est la logique. Évidemment, vous allez me dire, ça rapporte 30 milliards d'euros à l'État. Oui. Et oui, mais le problème, c'est que tout le système est biaisé aujourd'hui. Forcément, on a besoin d'argent parce qu'on en donne beaucoup trop, parce qu'on est dans un système d'assistanat. Je sais que vous allez détester ce mot, mais il y a quand même certaines choses à revoir. Et donc, voilà où on en est. Mais les entreprises peuvent vendre, comment dire, même à perte, à prix coûtant.
Oui, mais ça, regarde, Total, par exemple, Total avait, et qui est quand même une entreprise très décriée en France, mais mine de rien, ils ont fait un coup de pouce à 1,99€.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'arrêtent pas.
Quand tu vas en dessous des RMC, non, mais on
incroyable,
est.
Incroyable,
c'est
quoi,
c'est vrai, sur le
bah oui, ils ont
vous mettez
prix,
dans le même, vous êtes formidable. Attends, vous mettez vrai. Dans le même pot les ménages français, la taxation sur les ménages, ouais. La taxation sur les TPE, okay. Avec la taxation sur des entreprises qui font des super profits.
Non, mais je parle
d'un segment très particulier.
Qu'ils ont fait sur les
très grosses entreprises. Qui ont dégagé en un an 65 milliards.
Mais Benjamin,
vous mélangez tout.
Benjamin,
on
n'a
pas parlé de ménages, là.
Benjamin,
il ne s'agit pas de taxer les ménages.
On n'a pas parlé de ça.
Ah ben si.
Non.
Tu dis
Benjamin,
on a dit qu'ils ont fait des efforts sur le prix vendeur à la pompe.
Les TPE, on parle de taxer les super profits
Benjamin.
Des entreprises qui fait et qui
font des bénéfices. Mais ça ne
fera rien,
Benjamin.
Énorme et exorbitant.
Mais qu'est-ce que ça va faire sur le prix du carburant, Benjamin? Ça ne fera rien.
Benjamin, tu ne m'as pas laissé aller au bout de mon raisonnement. Je te parle de Total. Je ne te parle pas de l'entreprise Total. Je te dis Total, en fait. Total, aujourd'hui, quand tu vas dans une station Total, le prix, il est capé à 1,99€. Si tu vas à la station BP, là, en dessous des RMC, t'es à 2,13€, déjà, le SP98. Alors oui, effectivement, t'es dans le 15e arrondissement de Paris, très bien. Je pense que si je suis automobiliste, je préfère aller chez Total à 1,99€ que chez BP à 2,13€. Non, mais attends,
c'est ça ta solution?
Non,
c'est-à-dire que les
automobilistes. Mais ma solution, c'est que ta solution,
attends,
c'est
de voir l'offre
de la solution, c'est de taxer les super profits. Ça n'aura aucun
ça
impact.
Existe, les politiques.
Tu écoutais ce que je te disais.
Non, mais j'ai très bien écouté.
Non, t'as pas fini.
Mais si, j'ai écouté.
Je peux finir?
C'est quoi la solution?
Okay. La solution, c'est qu'aujourd'hui, je veux dire, t'as pas que Total en France, t'as aussi des BP, des Shell, etc. Que les stations-service qui font, comme tu l'as dit, d'énormes profits, je veux dire, les pétroliers, ils peuvent aussi caper leur prix. Pourquoi BP fait pas la même chose que Total?
Alors ça,
c'est tout ce que je te dis.
Ça,
et moi, je considère que c'est plus. Je
préférerais.
Excuse-moi, je préférerais que ce soit les pétroliers qui fassent l'effort plutôt que l'État.
Mais écoute-moi, ça, ne fais pas comme si ça n'avait pas été proposé.
Bah
le
oui.
Gouvernement, il n'a pas proposé d'obliger. Il a proposé d'inciter. Et il s'est pris une claque dans la tronche.
Non, Total l'a fait.
Je te parle de politique publique contraignante. Si derrière, il y a un contrôle des prix du carburant, moi, ça m'irait très bien.
Bah
mais tu sais très bien que c'est un tabou pour ce gouvernement libéral. Ne fais pas comme si tu l'ignorais.
C'est
en réalité, ça a été proposé. Suggéré dans le débat d'idées, mais tout de suite le gouvernement a dit non, on peut pas. Parce qu'en réalité, devant les grandes entreprises, ce gouvernement de laquais du patronat, il se tait
en
et
fait,
il se couche.
C'est vraiment incroyable.
Mais je vous entre. Vous pouvez proposer, c'est une politique de contrainte des prix. C'est pour ça que tu es d'accord?
Mais
non,
c'est
ça que
je
dis.
Bah,
je voudrais qu'on entende, taisez-vous, je voudrais qu'on entende Anthony qui est automobiliste, ce serait bien d'entendre des automobilistes sur ce sujet, et qui nous appelle de Nevers et qui est chargé d'affaires. Bonjour Anthony.
Bonjour Estelle, Juliette, Benjamin, Thierry, un plaisir de vous retrouver.
Bonjour.
Et Paul que vous avez oublié, mais c'est pas grave.
Mais c'est pas grave.
Il vient moins longtemps. Il vient moins souvent. Anthony, en tant qu'automobiliste, est-ce que vous êtes écœuré de voir cette montée des prix des carburants ou est-ce que vous êtes fataliste en vous disant que de toute façon on pourra jamais revenir au prix d'avant?
Alors écœuré non, parce que de toute façon on est bien obligé de mettre du carburant dans nos véhicules pour circuler, pour aller au boulot et pour nos loisirs. Et ouais, j'ai dû faire un Nevers-Nice le week-end dernier, et pour faire attention à mon budget, j'ai pris les nationales, j'ai roulé moins vite, et je suis allé mettre du carburant au supermarché qui faisait un prix coûtant. J'ai pas pu faire mieux. Après, je suis complètement contre proposer des chèques et taxer les profits, parce que les chèques, ils vont jamais aux bonnes personnes, et taxer les profits, il faut pas oublier que c'est des personnes qui nous font travailler. Donc pour moi, il faudrait augmenter les salaires et revoir la taxation du carburant.
Ben ça, on est d'accord sur la montée des salaires. Évidemment. Après, quand vous dites ça va jamais aux bonnes personnes, le chèque de 100 euros. Bon, le premier chèque, il allait à des gens qui n'avaient pas de voiture, donc évidemment, c'était un peu embêtant. Mais là, c'est vrai qu'ils ont quand même révisé leurs critères, et pour le coup, ça va aux plus modestes. Alors bien sûr, quand on est juste au-dessus des plus modestes, on se dit mince. Moi, je l'ai pas, mais on est toujours au-dessus du plus modeste de toutes les manières. Donc le problème, c'est que les chèques, oui, c'est mal fait. Il faudrait remonter les seuils. Mais si vous remontez les seuils, ça va coûter plus cher et l'État n'a plus d'argent. Mais vous voulez pas de chèque, Anthony, en tout cas.
Je vais au boulot tous les jours et j'ai jamais reçu d'aide de l'État depuis que je travaille. Et pourtant, j'ai jamais mis un pied à la NPE. Donc, non, je suis contre les chèques qui vont jamais aux bonnes personnes.
Bah merci beaucoup Anthony, en tout cas d'avoir été avec nous. On est également avec Jean-Claude qui nous appelle de Perpignan, où il a plu enfin, tiens, ces deux derniers jours à Perpignan, et ça faisait bien plaisir aux habitants de la région des Pyrénées-Orientales, et il est gérant de station-service indépendante. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Estelle, bonjour à tout le monde.
Bonjour.
Jean-Claude, est-ce que les stations-service peuvent faire un petit effort, tiens, sur le prix des carburants?
Alors. Mais justement, moi, j'ai les poils qui sont hérissés quand je vous ai entendu autour de la table. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir mettre tout dans le bon sens. Déjà, les distributeurs, nous, donc soit moi ou les grandes surfaces, hein, moi, je gagne 8 centimes au litre. Ça, c'est la première des choses. D'accord. Les grandes surfaces gagnent 2 centimes. Mm-hmm. Par contre, quand moi, j'achète mon carburant, je l'achète ou à Port-la-Nouvelle ou à Frontignan, qui appartient à Total. C'est Port-la-Nouvelle et Frontignan à BP. Moi, je suis coté par 3 fournisseurs, j'achète au moins cher.
Ouais.
Moi, aujourd'hui, j'emploie 8 employés. Je suis une station-service indépendante à 100%, ouverte 24 heures sur 24.
D'accord.
L'État me prend 35% sur le gasoil en la TICPE, plus 20% de TVA, et sur le 95, identique. Et les régions, parce que les régions aussi prennent quelque chose, et ça, on a oublié d'en parler. Alors, c'est pas beaucoup, hein, c'est 0,73 et 1,35 sur le gasoil. Donc, je pense qu'aujourd'hui, moi, quand je vois, et je vous promets, et c'est une réalité, si vous avez l'occasion de venir sur ma station-service, je vois des gens qui mettent 5 euros d'essence. 5 euros d'essence.
C'est terrible.
10 euros. Donc, vous imaginez, ces gens-là, c'est pour aller travailler. Pour aller travailler. Donc, à un moment donné, moi, 35% sur 1 euro quand on vendait l'essence et 35% sur 2 euros, ça fait pas le même montant qui rentre dans les caisses de l'État. Aujourd'hui, sans les taxes de l'État, on pourrait vendre le carburant à 0,80. Les bénéfices de Total, si vous les regardez, ou de BP, sont extraordinaires. Moi, l'année dernière, depuis des années, hein, ça fait 26 ans que je suis indépendant, c'est la première fois qu'après impôt, ma société a sorti 1000 euros. C'est jamais arrivé. 1000 euros, en sachant que moi, je suis retraité, donc je ne prends plus de salaire sur ma société.
Ouais.
D'accord? 1000 euros, ça n'était jamais arrivé, parce que le prix a tellement flambé. Vous imaginez que début mars à aujourd'hui, le sans-plomb a pris 7 centimes et le gasoil en a pris 6.
Ouais, c'est énorme, je suis d'accord. Donc, mais comment vous faites pour vous rémunérer, Jean-Claude?
Ah ben moi, je suis tout en retraite.
Oui, d'accord. Okay. Wow. Vous ne travaillez pas pour la gloire, Jean-Claude.
Baisser les taxes et taxer les super profits, c'est ça?
J'ai 8 employés. Qu'est-ce que je fais à mes employés, Jean-Pierre? Je suis ouvert 24 heures sur 24. C'est-à-dire que j'ai caissier nuit et jour. D'accord? Donc, ce que je fais, ça fait 26 ans, les gens ont entre 25 et 20 ans d'entreprise. Je vais dire?
Non, bien sûr, je comprends.
Je réduis mon salaire, moi, aujourd'hui, et je suis pas le seul, attention, je suis pas le seul indépendant, il y en a plus beaucoup, mais faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, nous, les stations-services indépendants, on fait travailler au minimum 3 personnes, et des grosses comme moi, 8, il y en a très peu, mais je veux dire, aujourd'hui, il faut aussi qu'on arrête ce genre de truc, les stations-services avec des cartes bancaires et compagnie. On m'a fait rire.
Il y a le retour des pompistes, quand même, dans pas mal de stations. Là.
Ça commence. Pôle emploi, on est passé à France Travail. Ça, c'est juste le nom qui a changé et qui a coûté une fortune à l'État.
J'entends.
Mais aujourd'hui, si on veut relancer l'emploi, il y a deux choses. Il faut déjà recréer des postes. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, les sociétés qui sont taxées au maximum au niveau des charges salariales, faut laisser la même enveloppe. C'est-à-dire qu'un salarié qui coûte 3000 euros pour l'entreprise, on le laisse à 3000 euros. Seulement, on baisse les charges sociales et les 200 ou 300 euros. Et on le donne au salarié.
Mais d'accord, on est d'accord. Mais on est d'accord, Jean-Claude, il y a trop de différences aujourd'hui en France entre le brut et entre le brut et le net.
Non, mais moi je le dis 20 fois.
Entre le brut et le net.
C'est les cotisations sociales d'abord.
Bien sûr, il y a 10 fois trop de différences.
Pour donner 100 euros à son employé, il faut débourser 450 euros.
Voilà, et ça, c'est pas normal. Merci beaucoup, Jean-Claude, en tout cas, d'avoir été avec nous. Voilà, Jean-Claude qui est gérant d'une station service indépendante. C'est quoi votre station, Jean-Claude?
Ah, bientôt vous la verrez à la télé parce qu'elle va passer dans Les Disparus de la gare, la série qui a été tournée par
Disparus de la gare. D'accord. Écoutez, super. Bravo. Bravo Jean-Claude, notre invité sur ce débat, vous en doutez, on parle voiture. Et c'est Pierre Chasseret. Bien sûr, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Bonjour Pierre.
Salut Estelle, bonjour à toute l'équipe.
Bonjour Pierre.
C'est terrible là pour le coup cette montée des prix des carburants parce que là c'est une véritable flambée quoi.
Ouais, c'est une flambée, on s'en rappelle pas, mais c'est à peu près tous les ans, à peu près sur la même dynamique. C'est-à-dire que, au moment de ce qu'on appelle la driving season, c'est-à-dire aux États-Unis, on utilise majoritairement de l'essence. Mmh. Et au moment, de l'année, c'est le moment où les Américains recommencent à conduire en masse. Donc, forcément, ils tirent sur la demande en carburant. sans plomb et ça fait augmenter l'effet sans plomb sur les autres pays, notamment en Europe. Voilà pourquoi on retrouve un delta très impressionnant entre le diesel qui redevient très avantageux économiquement par rapport au sans plomb qui lui part en pleine ascension, quoi.
Mais ça veut dire que c'est un mauvais moment à passer et que ça va rebaisser, Pierre, ou pas du tout?
Faut pas rêver. Avec un niveau de fiscalité tel qu'on a aujourd'hui, tant qu'il n'y aura pas de refonte totale de la fiscalité mise à plat, on aura toujours le même problème qui se pose pour les automobilistes chaque année. Alors tant mieux, on va se parler souvent dans l'émission, mais c'est quand même un problème parce que ça veut dire que les automobilistes qui nous écoutent, ils sont pris à la gorge. Vous vous rendez compte? Ce que nous disait notre pompiste indépendant, c'est quand même fou. Il voit des gens venir mettre 5 € de carburant. C'est-à-dire que c'est vraiment le strict minimum pour pouvoir juste aller bosser. C'est rentrer, mais voiture, boulot, dodo, c'est pas ça la vie, quoi. Il faut aussi du temps social. Par contre, Benjamin, tu vas pas m'aimer, mais tu sais.
Ah, on va se refaire la même conversation que la dernière.
Non, on n'a pas le temps.
C'est cool, j'adore. Non, t'as les mêmes idées, mais moi j'ai toujours les mêmes aussi. On va se refaire le débat.
Benjamin, on n'a pas le temps là.
Juste un point, attention quand même, c'est pas demain quand Total se sera barré hors de France qu'il faudra pleurer sur le lait répandu.
Exactement.
Ça c'est le premier point. Et Thierry, n'oublie pas, tu parlais du chèque carburant que tu disais c'est plutôt juste parce que la baisse de la TVA serait pas bonne pour tous les automobilistes parce que ça privilégierait ceux qui ont des grosses voitures. En fait, Thierry, tu te trompes sur ce point. Les voitures les plus consommatrices de carburant sont les plus anciennes. Et donc celles qui sont possédées par les gens qui majoritairement n'ont pas des voitures.
Ça, je suis d'accord. Mais la baisse de la TVA, elle n'est pas discriminante. Elle bénéficie à tout le monde.
C'est ça. On peut pas cibler, quoi.
Ouais, mais il ne faut pas cibler parce que c'est qu'est-ce qui se passe? Le chèque carburant, c'est un chèque pour presque personne, payé par presque tout le monde. Donc il faut pas aller vers ce système. Le prix à la pompe doit être abaissé pour donner un souffle aux Français et faire en sorte que ce qui est débité à la carte bleue, eh bien ce soit un petit peu plus faible.
Sauf là, que c'est hors de prix pour les finances publiques.
Qui mettent 5 balles, c'est pas possible.
Sauf bien que sûr, c'est hors de prix pour les finances publiques.
Oui, pour l'instant, mais le problème, c'est parce que aussi, l'État a un peu dépensé n'importe comment quand même.
On peut trouver plein d'économies à faire, t'inquiète pas.
Mais l'État a dépensé n'importe comment et derrière.
On est tous d'accord là-dessus. Simplement, comme on sait que le prix d'essence ne va pas baisser dans les années qui viennent.
Non, c'est sûr.
Donc ça veut dire que si on commence à faire un effort aujourd'hui en baissant les taxes, on crée un trou dans les finances publiques pour des années et des années.
Ça va être douloureux, je le dis toujours. Si on veut remettre l'économie dans le droit chemin dans ce pays, ça va être douloureux. Il va bien falloir commencer quelque part. Il va falloir faire des économies quelque part, baisser les taxes autre part. Il va falloir rééquilibrer tout le système. Mais je sais que ça va être douloureux pour beaucoup de gens.
Enfin, c'est douloureux pour les mêmes depuis un bout de temps, quand même.
Pour les mêmes. Les classes moyennes,
les auditeurs à aller se renseigner sur l'ampleur des super profits. Il y en a qui ne souffrent depuis des années. Non.
Mais toi,
les entreprises dont je parle font 65 milliards de bénéfices en un an. Tu veux pas l'entendre? Pour toi, c'est pas un problème, mais moi je le matraque.
C'est pas ça.
Benjamin,
tout ce que tu vas réussir à faire, c'est de chasser les grandes entreprises et nos fiertés françaises. Tu vas les chasser à l'étranger.
Il y en a pour qui ça n'est pas douloureux depuis des années. Benjamin, par contre, il y en a d'autres qui souffrent depuis des années. C'est
Benjamin,
la réalité.
On est d'accord, il y a eu plein de propositions de loi pour taxer les super profits. Bruno Le Maire a dit non. Exactement. Donc à partir de là, je pense qu'il y a plein de gens qui sont d'accord avec toi. Dès lors que le ministre de l'économie ne veut pas, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?
Mais ça, c'est quoi ça? C'est parce qu'il y a un ministre de l'économie qui met un sens interdit.
Bah ouais.
Fin du débat, mais non, ça se passe pas comme ça. La démocratie, c'est pas ça. La démocratie, c'est de pointer les contradictions d'un discours et de dire que non, il n'y a pas de sens interdit. Le sens interdit, on le jette à la poubelle et il y a une possibilité. Et je rappelle que même chez les macronistes, ce sujet est ouvert. Il y a Elle Braun-Pivet, elle
n'est
pas exactement marxiste-léniniste et pourtant, pour elle, c'est un sujet. Donc, bien évidemment, qu'on force le débat et qu'on pousse les contradictions. Il manquerait plus que parce que le Pacha Le Maire dit non, on se couche tous.
Benjamin, aura envie de s'implanter en France avec ton discours.
Les entreprises en France, entreprises étrangères, elles viennent. La France est un pays attractif.
Benjamin, stop. On va terminer avec des messages. On va revenir sur le sujet des carburants, Paul.
Oui, Fred qui est contre. Il dit c'est une mesure inéquitable. Je suis contre. Je ne le touche jamais parce que je suis trop riche pour l'État à 2 000 € par mois. Anthony, lui, est plutôt philosophe. Il dit l'augmentation du prix des carburants, c'est inéluctable. Il faut se rendre compte de l'évidence. Il faut maintenant changer nos comportements. C'est une autre solution. Et enfin, Richard nous dit le prix de l'essence augmente en France alors que moi qui suis frontalier avec l'Espagne, celui-ci baisse depuis 3 mois. Est-ce qu'on ne nous prendrait pas pour des... Voilà. Je vous laisse terminer.
Les Ramones.
Exactement.
Faut-il relancer le chèque carburant, Paul ?
Eh bien, nos auditeurs sont principalement contre pour 72% d'entre eux.
Allez, dans un instant, on va parler de Gabriel Attal, le Premier ministre, qui accepte de débattre avec Jordan Bardella. Est-ce qu'il a raison de débattre avec le leader du RN ? On en parle dans un instant avec vous dans Estelle Midi. À tout de suite.
Yeah. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est midi 33, on est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story avec Paul Lassen, Benjamin Hamard, Thierry Moreau et Juliette Briens. Et tout de suite, on va poursuivre Estelle Midi avec le oui du jour. Et c'est celui de Gabriel Attal qui a accepté de débattre avec Jordan Bardella avant les européennes le 9 juin prochain. Le Premier ministre aurait longuement hésité, mais finalement, il aurait dit oui pour tenter de sauver la candidate macroniste Valérie Allier, à la peine dans les sondages, Paul.
Oui, d'après les informations du service politique de RMC, c'est hier matin que Gabriel Attal aurait fait part de cette décision en petit comité à quelques membres du gouvernement. Alors l'idée, explique un ministre, c'est de mettre Bardella face à ses responsabilités. Jordan Bardella, il faut le rappeler, qui depuis le début de la campagne évite plutôt les débats. Avec cette question qui se pose donc aujourd'hui, le Premier ministre a-t-il été convaincu par la dernière invitation dimanche du président du Rassemblement National? Voilà ce que disait Jordan Bardella. Je renouvelle mon invitation à une confrontation démocratique, à un débat avec le chef de la majorité. Notre projet contre leur vision. En forte difficulté dans les sondages, tu l'as dit Estelle, les macronistes veulent accélérer la campagne des élections européennes. Aujourd'hui, Jordan Bardella caracole en tête des sondages avec près de 30% d'intention de vote contre environ 16 à 18% pour la liste de la majorité. Alors est-ce que l'opération sauvetage qui va être lancée par le Premier ministre va sauver la candidate de la majorité? Eh bien, réponse le 9 juin prochain.
On ne sait pas du tout.
On ne sait rien pour l'instant.
D'accord, on ne sait rien. Gabriel Attal a-t-il raison de vouloir débattre avec Jordan Bardella? Juliette Briens.
Alors, j'essaie de réfléchir en termes stratégiques pour les deux. Il me semble que Gabriel Attal pourrait avoir plus à y gagner que Jordan Bardella, qui a à peu près tout à y perdre, puisqu'il caracole, comme on l'a dit, très haut, à plus de 30% dans les sondages. En même temps, Gabriel Attal, est-ce qu'il peut espérer d'avoir une réserve de voix conséquente chez les électeurs du Rassemblement National? Moi, ça me paraît compliqué. Il aurait plutôt des réserves dans les voix socialistes du PS, sauf que Glucksmann, eh ben, il monte très vite en flèche en ce moment, et pour je pense que c'est plutôt ça le problème. Moi, ce que je pense, puisque Jordan Bardella, d'ailleurs, débat déjà face à Valérie Ayer jeudi sur BFM TV. Donc, je pense que la seule raison pour ce débat et qu'ils acceptent de faire ce débat, c'est simplement le choc des personnalités, quoi, une sorte d'ego, de choc des étoiles montantes de la politique qu'on a toujours opposé l'un à l'autre et qui vont avoir envie de se départager sur leur jeunesse, leur fougue, leur talent.
Mais que nous, on a envie de voir ce débat, certes, je pense que ça va faire une très grosse audience.
Il l'accepte, c'est
voilà, ça. Je sais pas.
De réfléchir à pourquoi il l'accepte. Je ne pense pas que ce soit pour aller chercher des voix, parce que je ne pense pas que Gabriel Attal ait beaucoup de voix à aller chercher au Rassemblement National. Peut-être que Bardella en a quelques-unes à piquer à Renaissance, mais pas vraiment non plus. Hein.
Non plus.
C'est pas là non plus la réserve de voix de Bardella. Donc je m'interroge pourquoi ils acceptent. Et je pense que c'est juste simplement sur ce choc de personnalité, de popularité dans les sondages. Et voilà.
Mais Thierry Moreau, c'est vrai que ça peut quand même poser question. Un Premier ministre qui va aller débattre avec un chef de parti avant les européennes, il a que des coups à prendre, Gabriel Attal. Parce que s'il est.
Oui.
Alors, il est souvent très bon. Il n'y a pas de souci en communication, en débat, etc. Mais là, s'il perd des points face à Jordan Bardella, ben là c'est pire que tout, quoi.
Alors oui, il a que des coups à prendre. Historiquement, comme dans la 5e, le Premier ministre est quand même le chef de la majorité, implicite. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je pense qu'on a toujours intérêt à débattre. On a toujours, je crois, refusé l'obstacle, ne pas aller débattre, ne pas opposer ses arguments aux autres est toujours une erreur, pour moi, sur le fond. La deuxième chose, c'est que je ne suis pas d'accord avec toi parce que en instituant un clivage entre la majorité présidentielle et le RN, ils essaient de faire oublier les autres. Et donc, de faire oublier Glucksmann notamment, qui en ce moment grimpe un peu.
Marchand,
en focalisant entre ces deux entités, je pense qu'il veut ramener à lui une sorte de vote utile contre le RN.
D'accord.
Et dire aux gens qui sont éventuellement tentés par un vote Glucksmann, votez plutôt pour nous parce qu'on est quand même plus proche de
nous sommes la barrière anti-RN.
Nous sommes la barrière anti-RN. La troisième chose, c'est que l'objectif de Gabriel Attal, c'est une petite musique qui monte aussi dans la majorité présidentielle, c'est de dire Jordan Bardella est souvent absent dans l'hémicycle européen et surtout il ne connaît pas les dossiers. Donc je pense qu'il a à cœur, lui, qui connaît visiblement beaucoup de dossiers, de montrer le manque de connaissance des dossiers pointus, économiques, agricoles, enfin tous les dossiers, et pas seulement ramener à deux ou trois problèmes qui sont un peu récurrents auprès de la reine, que sont l'immigration, etc., etc. Donc je pense que c'est aussi pour pointer les manques du RN.
Ça, ce qui serait malin de la part de Gabriel Attal. Mais est-ce que
ça, ça c'est autre chose.
Ouais. Et est-ce que Benjamin Hamar accepter de débattre avec Jordan Bardella, c'est finalement pour un Premier ministre lui donner trop d'importance?
Non, mais là, je pense que de ce point de vue-là, on n'en est plus là. Ouais. C'est-à-dire que le macronisme qui se prétendait comme le rempart contre le Rassemblement national a été tellement loin dans la normalisation du Rassemblement national. Je rappelle les premières lois inspirées directement par le Rassemblement national, on l'a eu il y a quelques mois avec la loi immigration. De la même manière, je rappelle qu'il y a eu des membres du Rassemblement national qui sont vice-présidents de l'Assemblée, etc. Donc on n'en est plus là. Oui, mais enfin, donc on n'en est plus là. Le gouvernement, bien évidemment, en installant Jordan Bardella dans ce débat en tête-à-tête avec Gabriel Attal, bien évidemment qu'on est très loin dans la banalisation et la normalisation. Mais moi, ce qui me choque profondément, très très concrètement là, c'est que il y a une tête de liste Rassemblement National, macroniste,
il va débattre avec elle jeudi.
Mais alors donc,
qu'on s'interroge.
Et dès lors qu'il y a ce débat qui est prévu, pourquoi mettre en place, effectivement, enfin je trouve que c'est...
Parce que tu sais que ça ne suffira pas.
Oui, mais je trouve que c'est d'un mépris souverain d'abord pour leur tête de liste.
Je suis d'accord.
Enfin, il y a quand même... Alors,
c'est le chef de la majorité avec le chef de l'opposition.
Qu'est-ce que ça veut dire? Pardon, qu'est-ce que ça veut dire que de désigner une tête de liste, une femme, et ensuite derrière de repasser, parce qu'ils craignent quoi? Qu'elle se vautre dans le débat?
Non.
Donc moi, ben tu permets, mais moi c'est ce que je pense.
Quand même, c'est ce que ça veut dire.
Et moi je trouve ça très condescendant, très paternaliste. Ils ont désigné Valérie Hayé, elle va mener un débat, on lui fait confiance, on passe pas derrière en deuxième lame. Donc ça me choque profondément. Quant à l'histoire de... il est possible, en tout cas, là où je suis d'accord, c'est que dans installer ce débat, je pense que c'est quelque part vouloir effacer les autres. C'est-à-dire que, hormis ce duo, il n'y aurait rien d'autre. Voilà. Et je pense que...
Oui, t'as envie de le regarder.
Mais pourquoi t'as envie de le regarder? Parce que tu te dis que c'est peut-être la préparation de 2027.
Voilà. Oui, parce que c'est les deux personnalités aujourd'hui montantes de la politique, qu'on veuille ou non, c'est comme ça. Quoi.
Et peut-être aussi en pensant à ce qui va se passer en 2027.
Mais c'est une stratégie politique comme une autre. Jordan Bardella, évidemment, refuse tout débat avec les autres candidats de droite.
Oui, c'est
normal, il a absolument pas besoin de le faire. Le candidat Macron aux dernières élections aussi refusait les débats pendant un long moment. C'est de la stratégie politique, c'est comme ça. Après, pour la normalisation du RN par Renaissance, je suis désolée, Benjamin, mais ce qui normalise, ce qui banalise le RN, je suis désolée, ce sont les sondages, ce sont les Français. Hein,
Non mais il y a eu derrière une stratégie politique de certains partis. Ouais,
ils sont à 32%, donc ils sont bien obligés de débattre avec la majorité. Hein.
On a Damien qui nous appelle de Vernon dans l'Eure, et Damien, il est technicien électronique. Bonjour Damien.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous, Damien. Est-ce que vous allez le regarder déjà ce débat quand on sera sur quelle chaîne, bien sûr, entre Gabriel Attal et Jordan Bardella? Et est-ce que vous trouvez ça normal qu'un Premier ministre aille débattre avec Jordan Bardella?
Moi, je dirais plutôt l'inverse. Moi, en fait, je demande pourquoi les autres devraient aller débattre avec lui. En fait, puisqu'en fait, constamment, toute l'année, il dit que les autres partis sont anti-républicains, sont des extrêmes et tout. Donc, faut pas aller parler avec lui, en fait. Faut les laisser dans leur coin et puis aller voter pour un autre parti.
D'accord. Ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, on ne débat pas avec le RN.
Non. On ne débat pas avec le parti présidentiel.
Parce que
toute l'année, dès qu'on est contre eux, on est anti-républicain, on n'est pas bien, on est méchant. Donc, en fait, on ne peut pas parler avec eux. Ils ont la science infuse.
Ah, d'accord.
Faut les laisser dans leur coin. Et puis, nous, on fait notre élection. On vote pour quelqu'un d'autre que eux. Et puis eux, on va les dégager dans 7 ans. Et puis voilà, il n'y aura plus personne. Et puis au revoir.
Alors un peu moins que 7 ans. Hein, votre idée, mais quelque part, est-ce que vous, même si bon, j'ai bien compris que a priori vous n'étiez pas tout à fait macroniste, mais vous, ça vous intéresse pas de voir le Premier ministre débattre avec Jordan Bardella?
Non, c'est pas que je suis pas un macroniste. Le problème, c'est que c'est eux qui nous excluent parce qu'on pense pas comme eux. Toute l'année, c'est comme ça. Dès qu'on pense pas ça, dès qu'on le voit bien à l'Assemblée nationale, dès qu'on pense pas comme eux, alors on n'est pas bien, on est méchant, on est l'extrême droite, l'extrême gauche, c'est pas la bonne idée, on sait pas,
il n'exclut pas puisqu'il va débattre.
Ils peuvent plus nous exclure.
Mais c'est normal, ils sont dans la merde, ils sont à 5%. Ils vont rien faire.
Vous, Damien, vous voulez utiliser leur propre méthode contre eux. C'est peut-être un peu dommage de s'abaisser aux méthodes qu'on a toujours dénoncées.
Ils n'ont pas de maire élu, ils n'ont rien, ils n'ont personne, ils ne sont rien.
Les macronistes, et... c'est encore, mais si, quand même.
Ils proposent des choses. Ils ont payé les agriculteurs parce qu'il y a les élections. Les agriculteurs, ils n'étaient pas payés de ce qu'on leur avait dit. Non, ils font tout reculer. Ils parlent qu'ils vont donner un chèque juste avant les élections, un chèque de 100 euros pour l'essence.
Pour l'instant, sur l'essence, il ne donne rien, Damien. Mais on a bien compris. Mais on a bien compris que ce débat, a priori, vous n'allez pas le regarder. Merci beaucoup, Damien, d'avoir été avec nous. On a également en ligne Wallace qui nous appelle de Nanterre et qui est fonctionnaire territorial. Bonjour Wallace.
Oui, bonjour.
Wallace, est-ce que Gabriel Attal a raison de débattre avec Jordan Bardella?
Bon, écoute, c'est son choix. Hein. Il a envie de sauver un petit peu la mise parce qu'en effet, ils ont une candidate qui est plus que médiocre à leurs yeux. Maintenant,
elle est inexistante surtout.
Inexistante, voilà. Et par contre, là, le piège dans lequel il va tomber, c'est que Jordan Bardella n'est pas Marine Le Pen. Donc, si Marine Le Pen était moins à l'aise sur un débat, à mon avis, Jordan Bardella est un bon orateur et il va sortir gagnant de ce débat et haut la main.
Mais moi, je suis pas sûre, Wallace, parce que le problème, en tout cas, ce qui se dit autour de Jordan Bardella, c'est qu'effectivement, il n'a pas une connaissance très profonde des dossiers. Et pour le coup, Gabriel Attal, il est considéré comme un très, très gros bosseur. Donc, si Gabriel Attal... On est d'accord que sur la forme, Jordan Bardella, il est très bon en débat, il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Mais si Gabriel Attal l'attaque sur le fond, là, pour le coup, il fera pas monter, à mon avis, sa candidate Valérie Ayé. Mais en revanche, il peut faire baisser Jordan Bardella.
Oui, mais vous pensez pas aussi que ce serait pas quelque chose qui aurait été justement arrangé pour faire venir débattre Gabriel Attal et justement avoir préparé, d'avoir justement demandé qu'il vienne débattre avec Bardella et que Bardella se prépare depuis longtemps justement à ce genre de débat et qu'il va justement potasser ses dossiers.
C'est une bonne chose, mais le problème c'est qu'on peut être un bon orateur et un mauvais débatteur.
C'est ça.
C'est ça le problème.
C'est qui tout double? Parce que si Gabriel Attal part aussi dans le fond des sujets qui devient trop technique, il va perdre tout le monde. Bardella peut se sauver avec de la punchline et une bonne communication, mais il peut aussi évidemment perdre la face face à un Gabriel Attal plus compétent sur les dossiers. Ça va être très intéressant.
Tu peux te sauver sur 20 minutes, mais sur 2 heures, c'est déjà plus compliqué. Merci beaucoup Wallace d'avoir été avec nous. Et Paul, vous avez des messages sur la pierre MC.
Oui, Luc est contre. Il dit à quel titre Gabriel Attal irait débattre avec Bardella s'il tient à débattre, c'est facile. Il démissionne et se présente aux européennes. Pour Laurent, le choix est un peu inévitable. Il dit Attal n'a pas le choix. Le RN est en tête de tous les sondages. Tous les partis politiques ont fait n'importe quoi. Le vent de sanction arrive. Et enfin, Michel dit ça va être du divertissement. Déjà en 2022, ils avaient débattu pour les législatives. Sur le fond, je ne sais pas. Mais sur la forme, on va retrouver l'esprit des vieux débats politiques. J'ai hâte. Voilà, c'est un point de vue de Michel. Et puis, on vous a posé la question. Gabriel Attal doit-il débattre avec Jordan Bardella? Eh bien, vous répondez oui pour 77% d'entre vous.
Ah ouais, donc très, très forte majorité. Dans un instant, Anthony Morel sera sur le plateau. On va parler cuisine. Vous connaissiez le steak végétal, mais désormais, il y a le poisson végétal. C'est du poisson sans poisson. Apparemment, c'est bluffant et on aura un goûteur de luxe. Il s'est engagé hier à venir sur le plateau pour goûter ce poisson sans poison. C'est Perico Legas et il nous dira, écoutez, s'il aime ou pas, a priori, il part avec des a priori négatifs. Ah oui. On verra si ça le séduit ou pas. Ce sera dans un instant avec Anthony Morel. Et puis, juste après, à 13h, on parlera des PDG du CAC 40 qui gagnent en moyenne 130 fois plus que leurs salariés. Est-ce qu'il faut plafonner le salaire des patrons? À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis. C'est dégueulasse. On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Et tout de suite, on accueille Anthony Morel. On n'arrête pas le progrès.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Et aujourd'hui, on parle cuisine avec vous. Anthony, vous nous avez apporté un très, très joli plateau avec du tarama, du saumon, des makis et des mini sandwichs. À l'intérieur, il y a du poisson, mais du poisson végétal, du poisson sans poisson. On connaissait le steak végétal, la viande. Maintenant, le poisson s'y met.
Exactement. Alors moi, je suis pas un grand fan, moi, de steak végétaux, tout ça, où je suis un peu viandard et tout. J'ai jamais été très convaincu. Et là, j'ai été vraiment très étonné. J'ai rencontré une start-up française qui s'appelle Olala Foods. Pas pour leur faire de la pub, parce qu'on peut pas acheter leurs produits pour l'instant. C'est pour les restaurants pour l'instant, dans un premier temps.
Ah oui, d'accord.
Et son fondateur, donc Simon Fergniaud, c'est lui qui a eu la gentillesse de nous préparer ce petit plateau que je vais décrire pour ceux qui nous écoutent et qu'on va goûter ensemble, parce que moi, j'ai été plutôt bluffé. Donc on a ici des petits makis avec du thon cru, mais du thon cru complètement végétal. Qui veut goûter les petits makis? Je vais défiler à Juliette.
On va tout le monde.
Voilà. On a des petits sandwichs saumon gravlax avec du saumon à l'intérieur qui ressemble vraiment à du saumon, mais sauf que c'est des plantes. Ça,
alors,
je vais
on a
Thierry
Collégas, hein, je vous le disais, ah, là, oui, notre voilà. goûteur.
Je goûterai après que les néophytes se soient exprimés.
Oui, mais enfin, donne la
On a des petits sandwichs au thon et aux oignons rouges et on a du tarama, là encore végétal. Vous allez tout goûter, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais déjà, juste sur l'apparence, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Ça ressemble vraiment.
L'apparence est absolument bleu. Le tarama, on dirait du tarama.
Voilà, le tarama, on dirait du tarama. Le thon, on dirait du thon. Le saumon, bah, pareil, hein, pas de souci. Au goût, alors là, qu'est-ce que t'es en train de manger, Estelle? Toi, c'est le thon, sandwich au thon et avec des oignons rouges.
Franchement, j'ai des parties pour critiquer. Je veux dire, parce que je n'aime pas tous ces trucs végétaux, ça m'angoisse. Mais là, le thon. On dirait vraiment un petit sandwich au thon et c'est même j'ai envie de vous dire meilleur qu'un sandwich au thon classique. Je suis là, tous mes a priori s'envolent, ça m'embête un peu, mais voilà.
Je vois que Simon sourit, il est très content de ce que vous dites. Alors vas-y Juliette, dis-nous.
Sur le visuel et sur le goût, ce qui m'a le plus bluffé, c'est le saumon.
Saumon.
C'est à s'y méprendre.
Ouais.
C'est absolument à s'y méprendre sur la texture, sur le goût, sur le visuel. Je trouve ça incroyable.
Le thon n'est pas sec, il est goûteux. J'ai trouvé ça intéressant.
Alors le critique Perico.
Alors vous comprendrez que pour tester un produit, je dois le goûter à l'état brut. Là, le maquillage qui a été mis, tout à fait respectable.
Oui, toi t'enlèves le sandwich. Bah, tu fais un sandwich au saumon sans sandwich.
Je suis venu pour goûter le sandwich avec la moutarde. Donc on va goûter le produit pour lui-même en essayant de séparer
la sauce du saumon.
Oui, c'est le principe d'une dégustation d'un produit.
D'accord.
Sinon, c'est un maquillage.
Il est en train de nous ruiner tous les sandwichs, là.
Non.
Il est en train de prendre le goût de saumon quand même, pour expliquer pour ceux qui nous écoutent.
On prend les saumons de tous les sandwichs.
Donc, comme ça.
On va se retrouver avec des sandwichs et la sauce, quoi. C'est super, merci, Perico.
Alors, Perico.
Je peux poursuivre un petit peu.
Alors, le tarama. Mais dis-nous d'abord ce que tu penses du saumon.
Laissez-moi faire un global.
Ah, bah, d'accord. On va pas s'en sortir.
À la place du thon,
le tarama.
Moi, j'ai adoré le thon, mais c'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai mangé?
Alors, je vais vous. C'est comme les fricadelles, à la limite. Il faudrait mieux pas savoir. Non, mais si, parce que c'est que des produits. C'est moins appétissant quand on le dit. Donc à la place du thon et du saumon, tu as une base de protéines de pois, de l'huile de colza, des fibres de chicorée, du concentré de carotte, ça c'est pour la couleur du saumon, et une huile de micro-algues riche en oméga 3, parce qu'en plus de la consistance, de la texture, du goût, on a aussi essayé de recréer les propriétés nutritionnelles de ces aliments. Donc
mais le thon,
aussi
c'est que des protéines normalement, donc là
oui,
il y a
bah,
de la protéine.
Bah si, parce que c'est des légumineuses, donc t'as de la protéine normalement.
Ouais,
absolument. Donc normalement tu retrouves les propriétés nutritionnelles aussi de
quel
ces poissons.
Quel est le processus de transformation entre la molécule végétale et le fait que ça vienne du poisson?
C'est-à-dire, oui, alors ça je vais pas entrer dans ce niveau de détail.
Alors, c'est bon ou pas, Perico?
Il faut que je goûte. Il me reste le maquis, s'il vous plaît.
D'accord, oui, je vois bien. Alors, c'est compliqué, hein. On va jamais l'avoir.
Ah, ben,
un peu, ouais. Ah, non, il est incroyable.
C'est la loupe d'actualité au grand restaurant.
On dit aux auditeurs qu'il a quand même amené son bout de citron dans la poche.
Oui, c'est vrai qu'il a amené un
bout de citron.
Alors, Perico, là, qu'on avance un peu dans la chronique, là.
J'étais venu avec de terribles a priori.
Bah oui, comme moi, oui.
Extrêmement méfiant quant à la transformation des aliments. Et je reconnais que c'est à s'y méprendre.
Bon, alors si même
si
Perico...
détail... Non, c'est pas ça, c'est que c'est bon.
Ouais.
Alors je reconnais que c'est pas tout à fait. Le saumon, il est un fait infiniment meilleur que les horreurs que l'on voit en grande surface sous
mais
plastique. Le maquis, bon ben, il a le goût de maquis, il y a le riz. En tout cas, voilà, la similitude est assez proche. Je trouve le produit respectable. Si en plus il y a un impact environnemental et économique, là,
alors c'est ça, parce qu'évidemment tout l'enjeu derrière, c'est lutter, enfin éviter la surpêche, avoir limiter l'empreinte carbone. Alors il y a tout le discours écologique. Après, voilà, ça veut pas dire qu'on va obliger tout le monde à manger du poisson végétal. On est d'accord.
Pour les végétariens, c'est top.
Exactement. Pour les véganes, c'est bien parce que c'est une alternative. Et puis voilà, on fait ce qu'on veut. On a le droit d'avoir un petit peu de variété aussi. Une fois, on peut prendre du vrai poisson. Une fois, on peut tester ça. Et ça fait plaisir. Et franchement, c'est vrai que moi, j'ai alors c'est pas moins cher pour l'instant. T'as raison. C'est pour moi c'est le bémol, c'est que pour l'instant peut-être parce qu'on est dans une phase industrielle où on est au début, mais ça coûte le prix que tu vas acheter du saumon en supermarché. Ça va pas te coûter beaucoup moins cher.
Oui,
mais
ça coûte pas plus cher.
Ça
non
coûte
plus,
pas plus cher non plus. Et puis à terme, je pense que ça coûtera beaucoup moins cher parce que pour le coup c'est des légumineuses, c'est des produits naturels qui coûtent moins.
Et,
un peu
et
poisson,
tu manges un truc de
ça concerne deux poissons en problème qui sont le saumon industriel et le thon qui est en fin de ligne et qui est souvent, hélas, les poissons sauvages aujourd'hui sont très toxiques. Si ça peut permettre de résoudre cette énigme, ça ne retire rien aux poissons naturels.
Évidemment.
Mais là, je sais que je suis avec un produit produits sains et frais qui a été élaboré dans des conditions respectueuses de l'environnement. Donc, on n'arrête pas le progrès. Bravo, Anthony Morel. Et bravo.
Et bravo. Oh là là. Donc, le nom de cette start-up française, oh là là. Je le dis, parce qu'ils produisent tout du côté de Boulogne-sur-Mer, ce qui est assez paradoxal. Ils ont pris un port de pêche pour produire du poisson végétal, ce qui est assez rigolo.
L'air marin, ça aide.
Et bravo, Anthony, d'avoir réussi à convertir Perico Legas au végétal. C'était pas gagné. On parle de quoi demain, Anthony?
Ah, bah, demain, vous savez que c'est le début d'un de vos événements préférés de l'année, quand même.
La Foire de Paris?
Le concours Lépine.
J'adore. Ah, c'est super. Ah, je suis trop content.
Alors, je concours Lépine. J'ai aussi un petit truc à montrer pour le concours Lépine. Non, peut-être pas.
Demain, on verra. Merci Perico d'avoir été notre goûteur de luxe. Demain, le concours Lépine. Alors, c'est ma vie. Ça aura des aspirateurs. Enfin bon. Merci beaucoup, Anthony Morel. Vous pouvez retrouver cette chronique justement sur le poisson sans poisson sur rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement. Merci Anthony. Merci Perico. Dans un instant, on parlera des PDG du CAC 40 qui gagnent en moyenne 130 fois plus que leurs salariés. Est-ce qu'on doit plafonner le salaire des patrons? On en débat avec vous au 32-16 et sur l'appli RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi.